Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du salaire au mérite dans le monde de l'éducation, des drogues les plus consommées en Europe, du Danemark qui ne considère plus qu'être trans relève de la maladie mentale, de C14 qui pourrait être jugé inconstitutionnel, des hôpitaux qui doivent composer avec les réticences de leur personnel, de la pilule du lendemain, de la sélection prénatale au Canada et bien sûr, mesdames et messieurs, des bonnes nouvelles du jour. Débutons avec cet article qui a été publié sur la plateforme du Figaro et qui s'intitule « À l'éducation nationale, le salaire au mérite n'est plus un tabou ». C'est un article qui est signé par Caroline Beyer. Voici ce qu'on nous dit. « Outre le milliard débloqué pour augmenter les enseignants, l'engagement professionnel va être récompensé. » Eh bien, j'ai hâte, mesdames et messieurs, de voir l'engagement politique à cet égard. Parce que ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on récompense un enseignant? Sur la base des résultats? Supposons, mesdames et messieurs, que dans une classe, il y a 10 % d'élèves en difficulté d'apprentissage. Dans une autre classe, il y en a 20. Dans une autre classe, il y en a 30. Et si on calcule, par exemple, le facteur démographique, si c'est dans un milieu défavorisé, il va y avoir toute une série de calculs pour être juste et équitable. Parce qu'un bon enseignant qui performe dans une école, par exemple, d'un milieu aisé, eh bien, c'est différent qu'un enseignant qui atteint un niveau de performance moindre, mais où est-ce que la complexité est plus grande. En plus de ça, ça va demander un suivi pédagogique. Et là, mesdames et messieurs, ce qui arrive, c'est que nos directeurs d'école sont débordés par toutes sortes d'éléments de gestion. La discipline, parce qu'il y a de moins en moins d'élèves qui ont du respect envers les enseignants. Il y a de plus en plus de parents, et on en a parlé abondamment, et les médias en font état énormément, de plus en plus de parents qui se plaignent auprès de la direction et qui appuient, non pas les enseignants, non pas la direction, mais leurs enfants lorsqu'ils sont punis. Je le sais, je l'ai vécu, et ça ne va pas de mieux en mieux cet effet. Même Mathieu Bock-Côté en a parlé. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder pour ça? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est le Figaro qui nous en parle. Et on va pouvoir observer la France pour ne pas imiter leurs erreurs. On va pouvoir retenir leurs bons coups et s'ajuster en conséquence parce qu'on doit aller dans cette direction-là. Si on veut que l'enseignement soit de plus en plus de qualité, il faut récompenser nos enseignants. Et pas nécessairement monétairement, mesdames et messieurs. Je crois qu'il faut libérer les enseignants, leur donner plus de temps de libération pour l'encadrement, pour le travail en équipe, pour des projets d'équipe, en tant qu'enseignant, qu'il y ait des groupes d'enseignants qui travaillent ensemble aussi sur des conséquences et des éléments de suivi au niveau de la discipline, qu'il y ait vraiment plus de temps pour l'encadrement pour que lorsque les enseignants arrivent en classe, ils sont équipés, ils sont préparés et ils ne sont pas à bout de souffle. Ça prend également des directeurs d'école qui ont plus de temps pour le suivi pédagogique, la supervision pédagogique et pour appuyer les enseignants qui ont besoin d'appui dans leur salle de classe en termes de discipline. Et pour ça, il faut abolir les commissions scolaires puis avoir des directions régionales. Une par région, c'est tout. 17 directions régionales dans lesquelles, un peu sur le modèle de la Fédération des établissements d'enseignement privé, on regroupe des écoles pour qu'il puisse y avoir un échange de services, une collaboration entre les écoles et à ce moment-là, maximiser les ressources sur le terrain. Ça, c'est important. Je crois également qu'il devrait y avoir des examens de fin d'année qui sont conçus par ces directions régionales-là pour s'assurer que les élèves sont bien testés. Pourquoi? Parce que c'est facile à un enseignant de dire « ben, je les fais toutes passer » ou « je vais leur donner des questions faciles pour s'assurer que justement elles puissent passer parce que je veux avoir une prime au rendement. » Il faut à ce moment-là, si on s'en va vers une prime au rendement, il faut, mesdames et messieurs, que l'évaluation provienne de l'extérieur. Et l'autre aspect, je crois qu'il est important, c'est qu'on sépare les élèves en fonction de leur cheminement. Ceux qui sont des élèves enrichis, on doit les motiver, les mettre ensemble. Ceux qui sont réguliers, les mettre ensemble. Et ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, ça prend des spécialistes qui vont être avec eux, qui vont les stimuler, en vue éventuellement qu'un certain nombre d'entre eux puissent passer au régulier. Et il y a un certain nombre d'entre eux qui vont demeurer dans ces classes-là, et on va les diriger vers des carrières et des métiers qui leur correspondent. Et ça, c'est le défi de l'éducation, mesdames et messieurs. Chez les jeunes, il y a d'autres défis. C'est la consommation de drogue. Ce qu'on nous dit également sur la plateforme du Figaro, c'est ceci. Cannabis, cocaïne et MDMA sont les drogues les plus consommées en Europe. Un article rédigé par Cécile Thibert. Voici ce qu'elle nous dit. La MDMA, principe actif de l'ecstasy, connaît un regain de succès tandis que de nouvelles drogues de synthèse font leur apparition sur le marché. Selon un rapport présenté à ce jour à Lisbonne, l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie nous dit ceci. Rien qu'en 2015, 17,8 millions, pour ne pas dire 18 millions, 17,8 millions de jeunes de 15 à 34 ans ont déclaré avoir consommé cannabis en tête, suivi par la cocaïne, la MDMA et les amphétamines. Bien que la consommation de drogue soit globalement à la hausse dans l'Union européenne, le rapport fait état de fortes disparités. En France, par exemple, mesdames et messieurs, le Figaro nous dit ceci. La consommation de cannabis s'y maintient à des taux élevés, environ 17 % des 15-34 ans, et cela depuis bientôt 20 ans. On voit un retour, justement, de l'ecstasy et l'essor de drogues de synthèse. Et ça, c'est inquiétant, mesdames et messieurs, parce que savez-vous qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ainsi, en 2015, 98 nouvelles substances psychoactives ont été détectées pour la première fois, dont 25 étaient des cannabinoïdes de synthèse, donc des drogues qui agissent sur les mêmes récepteurs cérébraux que le THC, l'un des principaux composés actifs du cannabis naturel. Donc, on va essayer de reproduire le THC d'une manière synthétique pour amener un buzz similaire ou un buzz même encore plus puissant. Et là, on ne parle pas de drogue douce, comme on utilise dans le langage courant, ou de drogue dite naturelle. Et c'est consommé de plus en plus. Mais on sait, mesdames et messieurs, que la consommation régulière de cannabis peut produire des problèmes de santé, évidemment, et même de santé mentale. Pour leur part, le Danemark, en ce qui concerne la question de la santé mentale, eh bien, ils ont pris une décision très claire, très nette. Ils se sont dit « être transgenre ne sera plus considéré comme une santé mentale ». C'est ce que la presse nous rapporte dans un article qui est écrit en collaboration avec l'AFP. Et donc, c'est un article de l'AFP, l'agence France-Presse, qui a été publié sur la plateforme de la presse. Et cet article est intitulé « Danemark, être transgenre ne sera plus une maladie mentale ». Voici ce qu'on nous dit. Le Danemark va retirer en 2017 le cas des personnes transgenres de la liste des maladies mentales établie par le ministère de la Santé, selon une décision prise mardi par la Commission de la Santé du Parlement danois. Cette initiative vise également à peser sur la décision que devra prendre, en la matière, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui n'a toujours pas retiré le cas des personnes transgenres de son manuel sur les maladies. La branche danoise d'Amnesty International a souligné que le Danemark était le premier pays dans le monde à prendre une telle décision. Cette initiative fait du Danemark un pionnier concernant les droits des personnes transgenres et Amnesty félicite le gouvernement pour les efforts qu'il a déployés au sein de l'OMS pour obtenir un changement de la classification des maladies, a déclaré le secrétaire général de la branche danoise de l'ONG, Trine Christensen. Et donc, quand je vous disais, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, qu'il y a un lobby organisé LGBT pour pousser justement les droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, eh bien, on le voit ici. Il y a un lobby organisé qui veulent faire en sorte que leurs droits soient développés, soient promus. Et c'est pour ça que Ici, on a commencé par le Danemark. On a réussi au Danemark. Ce lobby a réussi à ce que la question trans ne soit plus considérée comme une maladie mentale. Qu'on soit d'accord à ce que ce soit une maladie mentale ou non, le point, ce n'est pas là ici. Le point, c'est que lorsque des gens ont des valeurs, lorsque des gens ont des intérêts, ils les défendent, et à force de les défendre, à force de s'organiser, ils arrivent à des buts. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a énormément de chrétiens au Québec et au Canada, mais très peu d'entre eux vont revendiquer leurs droits, leurs valeurs et leurs libertés auprès des gouvernements. Mais ces groupes-là le font et ils réussissent. Il y a certains, par exemple, il y a certains groupes qui ont manifesté, certains chrétiens qui ont manifesté contre C-14, la loi qui va légaliser l'euthanasie. Eh bien, C-14 pourrait être jugé inconstitutionnel selon un député libéral, et c'est ce qu'on peut voir sur la plateforme du Huffington Post. Un article qui est rédigé par Catherine Lévesque qui s'intitule « C-14 pourrait être jugé inconstitutionnel selon ce député libéral ». Voici ce qu'elle dit. « Le projet de loi C-14 sur l'aide médicale à mourir pourrait être jugé inconstitutionnel », a déclaré l'un des 4 députés libéraux qui ont voté contre son adoption à la Chambre des communes mardi. David Lametti, député de Lasalle-Aymard-Verdun et secrétaire parlementaire du commerce international, dit avoir mûrement réfléchi et effectué bien des recherches avant de prendre cette décision difficile. S'il se dit d'accord avec le principe, il pense que le projet de loi fédéral ne va pas assez loin pour permettre aux personnes qui souffrent d'une condition médicale grave et irrémédiable de mettre fin à leur vie. Voyez-vous ici, mesdames et messieurs, il faut faire attention de ne pas simplement lire les titres des articles. Parce que ça donne l'impression, lorsqu'on lit ce titre, qu'il y a des députés libéraux qui s'opposent à C-14, la loi sur l'euthanasie, en disant, voyez-vous, il y a des libéraux qui sont contre l'euthanasie. Non, 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 ils sont pour, c'est juste qu'elle ne va pas assez loin. Elle ne va pas assez loin, selon eux. On devrait élargir l'espace de ceux qui désirent se faire enlever la vie. Et ça, c'est quelque chose, mesdames et messieurs. Dans quelle société on est, mesdames et messieurs? Une société de désespoir. Si les gens veulent s'enlever la vie, c'est parce qu'ils vivent du désespoir. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, toi, tu n'es pas malade puis tu ne vis pas leur désespoir. Une société civilisée ne tue pas les gens en fin de vie lorsqu'ils souffrent. Ils cherchent à les soulager, à leur démontrer de l'amour, de l'affection, à les entourer. Il me semble que c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller. Il me semble qu'avant d'ouvrir la porte à l'euthanasie, on devrait justement offrir à chaque être humain qui souffre des soins palliatifs de qualité. Ça devrait être ça notre mission numéro un. Couper ailleurs, mais investir là. Mais économiquement, c'est plus facile d'offrir la mort à ceux qui souffrent que d'offrir des services coûteux qui demandent l'énergie, qui demande de la patience. Où est-ce qu'on s'en va? Mais ce que ça produit, c'est qu'au Québec, les hôpitaux doivent composer avec les réticences de leur personnel, et c'est le devoir qui nous apprend ça, dans un article signé de la plume d'Isabelle Paré. Et parce que les médecins peuvent faire valoir leur objection de conscience, eh bien, il y a des employés dans le monde médical, dans les hôpitaux, qui vivent des malaises, par exemple, ça peut être des infirmières ou d'autres membres du personnel, qui sont impliqués dans le processus de mise à mort pour ceux qui demandent l'aide médicale à mourir. Et là, ça crée des problèmes administratifs parce qu'on est pris avec des gens qui, à cause de leur conscience et à cause de leur conviction religieuse, se disent mal à l'aise. Mais là, il y a toute une démarche de communication, il y a toute une démarche qui est en train de se monter pour essayer de rallier ces gens-là. Voici ce qu'on nous dit dans Le Devoir. Il reste beaucoup à faire pour informer le personnel soignant des hôpitaux où l'aide médicale à mourir se heurte non seulement à un manque de connaissances, mais aussi aux convictions religieuses ou morales d'employés de diverses confessions. On est encore loin dans un « work in progress ». Il y a un énorme manque d'informations. On doit redire à nos employés qu'ils n'ont pas à juger le patient en fonction de leurs valeurs personnelles. Et ça, c'est Mme Dupuis qui siège au groupe d'information sur l'aide médicale à mourir du CHUM, Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et donc, voyez-vous, il y a tout un programme d'intervention stratégique en matière de communication pour amener les employés à contribuer à l'aide médicale à mourir, malgré que ça peut nuire à leur conscience. En disant, oui, ça c'est votre conscience, mais la ligne, c'est que vous n'êtes pas appelé à juger le patient en fonction de vos valeurs personnelles. Et ils vont dire, ben ces employés-là, ils sont réticents à cause d'un manque d'information. Donc, on va les gagner à force de persuasion. Et ça, c'est malsain, mesdames et messieurs. Ça, c'est extrêmement malsain. On voit qu'en France, on a ouvert la porte à la pilule du lendemain, qui peut justement être donnée par une infirmière. Je vous invite à lire cet article sur la plateforme du Figaro et qui s'intitule « Pilule du lendemain, les filles ont déjà du mal à franchir la porte d'une infirmerie ». Et donc, à ce moment-là, ça réduit les délais d'accès, ça facilite le recours. Et nous, au Québec, c'est déjà en place dans les écoles. Donc, une fille qui a 14 ans ou plus peut aller voir l'infirmière d'école, demander une pilule du lendemain, et les infirmières ne sont pas tenues d'en faire part aux parents à ce moment-là. Malheureusement, à cause que le temps file, je vais devoir aller beaucoup plus rapidement. Je vous invite à lire également « La sélection prénatale se pratique aussi au Canada ». On en a déjà parlé dans le passé, mais un autre article sur le sujet, un article de Vincent Destouches, qui est sur la plateforme de l'actualité, et qui nous montre que quand même c'est un fait assez percutant, parce qu'en 2014, il y avait 40 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine et 46 millions en Inde. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Canada, on voit dans certaines communautés qu'il y a une pratique d'avortement pour s'assurer à ce qu'on puisse avoir comme enfant un garçon plutôt qu'une fille. Et ça, c'est le résultat, mesdames et messieurs, de ne pas avoir de loi sur l'avortement. À cause qu'il n'y a pas de loi sur l'avortement, eh bien, la porte est ouverte à n'importe quoi. Au début, on disait, on va laisser ça comme ça parce que si, par exemple, une femme se fait violer, ou si une femme est enceinte dans une relation incestueuse, ou si, par exemple, l'enfant est déformé, on ne peut quand même pas les empêcher de se faire avorter. Mais là, maintenant, ce n'est plus ça. C'est un bar ouvert et c'est désastreux, mesdames et messieurs. Mais on va finir avec les bonnes nouvelles du jour. Open Table annonce les 100 meilleures terrasses de restaurants au Canada pour 2016. Il l'annonce malheureusement seulement en anglais. Je n'ai pas réussi à trouver la plateforme en français. Et c'est juste ça qui est désolant, mais c'est une belle initiative. La ministre Lucie Charlebois souligne la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et donc, ça se passe du 1er au 7 juin. Et l'inauguration du parc Luc Durand et de la première patinoire extérieure de la LNI. Cela aura lieu aujourd'hui même à 18h. Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous dis à demain.
Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.